Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement à l'instant et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, le retour de mes friends niçois Eva Rock pour son zapping du lendemain spécial retrouvailles et Bertrand Chamerois pour son écran de veille spécial Comédia dell'Arte. Notre invité, c'est l'écrivain Nicolas Rey pour son nouveau roman La Marge d'erreur. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et avec lui, ça ne peut être qu'inattendu. Et puis dans les indispensables, un roman encore, celui de la journaliste Adélaïne de Clermont-Tonnerre. C'est Nicolas Carreau qui va nous le faire découvrir et la sélection VOD de Marjorie Adelson. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bonjour Bertrand Chamerois.
Bonjour à tous.
Content de vous retrouver tous les deux. Bertrand, c'est l'heure maintenant de votre écran de veille. Qu'avez-vous regardé hier ?
Eh bien vous le savez Philippe, Eva, j'aime le jeu, j'aime le beau jeu. J'ai donc évidemment regardé le match.
Pas du tout.
J'ai regardé Mara, une femme unique. Vous vous demandez sûrement de quoi il s'agit. Eh bien il s'agit d'un nouveau bonbon dans la boîte de mes friandises préférées, les telenovelas d'IDF1. Mara, femme unique, série portugaise dans laquelle les petits garçons de 10 ans sont doublés par des femmes de 30.
Il y a une partie que maman ne me racontait jamais. Mais je sais lire et je l'ai lu.
C'est sans doute la série la plus rentable de l'histoire du genre, car la personne qui double l'enfant de 10 ans double visiblement également une femme de 40 ans. Et alors zéro effort pour modifier la voix.
Il ne manquait plus que ça. Celle qui prend les décisions ici, c'est moi. Ton opinion, je m'en fiche complètement. Tu n'es personne, personne.
Ah bah au moins, ça permet de faire des économies. Hein. Un doubleur pour tout le casting, tu fais une belle marge en fin d'année. Hein. Mara, femme unique, c'est aussi de l'intrigue. Comme dans toutes les séries à l'eau de rose, ou à l'eau de rose,
il y a des
histoires de cœur et de tromperie. Écoutez bien le nom du personnage cité.
J'aimerais qu'on parle de ce qui s'est passé entre nous.
Oui, bien sûr, je t'écoute, vas-y.
Je ne sais pas comment aborder le sujet.
Ta femme est revenue. J'ai entendu Mito le dire.
Personnellement, je me méfierais d'une info donnée par quelqu'un qui s'appelle Mito. Hein. Ça sent pas l'info.
C'est
fiable.
Drôle.
Mais ce que je préfère dans ces séries, c'est le passé des personnages. Voici le CV amoureux d'une des protagonistes. Sortez un paperboard, c'est vertigineux.
Tu devrais faire comme moi. Regarde-moi. D'abord Enrique. De Enrique, je suis passée à Sousa Pinto. De Sousa Pinto à Camacho. Très bien. De Camacho ah, je ne sais plus. De Camacho, je suis passée à Rui. À Rui. Ensuite, Asdrubal a débarqué. Et d'Asdrubal à Rui de nouveau.
Ok.
Eva, résumé peut-être
Non.
Merci.
Elle a beaucoup d'amoureux.
Et qui dit novelas dit jeu d'acteur, évidemment. Je pensais avoir tout vu à ce niveau-là, mais c'était avant de découvrir Mara, femme unique, une masterclass.
Vous êtes injuste là, madame. Ou plutôt, vous êtes tout le temps injuste. Et je ne suis pas là pour être maltraitée.
Allez, c'est quelque chose. Comme dirait l'une des héroïnes.
Ah ouh. Ça fait mal.
Oh non.
Oui, parce qu'il joue aussi très bien la douleur, écoutez.
Ah, aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe,
aïe, aïe. Je milite pour que cette série soit nommée dans toutes les cérémonies qui récompensent la création. L'engueulade que vous allez entendre mérite de remporter un César, un BAFTA, une Palme d'Or, un Ours, un Oscar, une Légion d'honneur, tout.
Si vous voulez tout savoir, je travaille très bien avec tout le monde, vous savez.
Uh-huh.
Ou une autre patronne.
Ah bon ? Je vais m'occuper de ton cas.
Ok.
Il y a du niveau, c'est Comédia dell'Arte, hein, mais dell'Arte les pizzerias. On va quand même demander la VAR au cas où. Est-ce que vous pouvez nous rejouer une autre scène d'engueulade ?
Si vous voulez tout savoir, hein, j'en ai plus que marre de vous.
Tu es un insolent. Je te mets dehors et tout de suite.
Vous auriez pu le dire, madame. Je me serais arrangé pour trouver une autre patronne.
Oui, la VAR est formelle, il joue comme des culs. Bonne journée.
Non, même à la répète, ça devait être mieux. Eva.
On dirait une répète, c'est vrai.
Un zapping un peu particulier aujourd'hui, car TF1 diffuse un événement, le mot est faible, très attendu.
Oui, alors c'est pas du tout un match de foot, mais des retrouvailles entre 6 amis, nos amis.
Mesdames et messieurs, veuillez accueillir, je vous prie, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry et Marc Leblanc, les acteurs de Friends.
Soit Monica, Rachel, Phoebe, Joey, Chandler et Ross, 6 personnages et 6 comédiens qui pendant 10 ans et 236 épisodes ont marqué l'histoire des séries Friends. C'est l'histoire d'une sitcom diffusée dans 220 pays et qui rassemblait en moyenne, écoutez bien, 25 millions de téléspectateurs. Wow. Et bien 17 ans après le dernier épisode, l'heure est aux retrouvailles, le temps d'une émission spéciale diffusée donc sur TF1 ce soir en prime time. J'avais une appréhension quand même à l'idée de retrouver ces héroïnes et ces héros qui m'ont tant fait rire. Et d'ailleurs, le début du rendez-vous m'a d'ailleurs peu convaincu. Et puis, la magie opère de nouveau. Friends, c'est quand même la série doudou, celle qui rassure, qu'on regarde avec une douce nostalgie. Et ce soir, vous allez découvrir les coulisses de cette sitcom qui était tournée en public. D'ailleurs, écoutez le public découvrant Monica et Chandler dans le même lit, ce qui n'était absolument pas prévu, et les conséquences de ces réactions.
Tu crois qu'il m'a vu ?
Je crois que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à repenser la relation Monica Chandler, parce qu'à l'origine, on prévoyait qu'il y ait une petite aventure à Londres, mais que ce soit sans lendemain, et qu'ensuite on s'amuse pendant quelque temps sur le thème du « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait ?»
Mais vu la façon dont le public a réagi, on a compris que ça allait au-delà de ça, et qu'il fallait le prendre en considération.
Et c'est devenu une vraie belle histoire dans Friends. Cette émission est le résultat de tout ça, c'est-à-dire c'est une somme d'extraits de la série, de coulisses, de petites révélations et d'une très très grande révélation qui concerne une actrice et un acteur, une histoire d'amour. Mais je ne peux pas vous spoiler quoi que ce soit.
C'est
non, non, je ne vous dirai pas. Non, c'est nul de le dire. Voilà. Et puis il y a des moments magiques, étonnants, comme celui qui suit avec Phoebe, alias Lisa Kudrow, qui reprend une chanson qui est devenue culte dans Friends, Tu pues le chat. Phoebe, particulièrement bien accompagnée ce soir, puisque Lady Gaga se joint à elle.
Smelly cat, smelly cat, what are they feeding you? Smelly cat, smelly cat, it's not your fault.
Salut. C'est drôle parce que je passais par là par hasard et il se trouve que j'ai justement
une guitare.
Ouais.
Quelle coïncidence.
Est-ce que je peux t'accompagner?
Bah, oui. Enfin, si tu arrives.
Smelly cat.
Oui, parce qu'on est aux États-Unis. Alors, ouais. En plus de Lady Gaga, il y a tout un gospel qui vient pour chanter Smelly Cat, évidemment, comme toujours. Alors, ces retrouvailles, elles s'adressent avant tout aux fans de la série. Ça se regarde un peu comme une gourmandise. Vous parliez de gourmandise d'ailleurs tout à l'heure, Bertrand. Vous savez, un peu comme ce rouleau de réglisse qu'on déroule, qu'on grignote tout doucement en se disant pourvu que ça ne finisse jamais.
Ouais.
Mais bon, il y a bel et bien une fin. Et c'est sur TF1 à 21h05 ce soir.
Merci beaucoup, Eva Rock. Merci, Bertrand Chamerois. Et tout redémarre. On vous retrouve, Bertrand, demain. De 7h40 comme chaque matin pour votre chronique La Touche Âme, c'est dans la matinale de Mathieu Belliard. À demain tous les deux, les Friends niçois. Dans un instant, notre invité, le romancier Nicolas Rey, mais d'abord musique avec Requin Chagrin.
Europe 1 Culture Média.
Summer.
Fou au pluriel, c'était Requin Chagrin sur Europe 1, groupe qu'on peut retrouver en concert. Ça sera le 14 juillet prochain aux Vieilles Charrues. Les billets sont disponibles sur le site du festival. Dans un instant, notre invité, le romancier Nicolas Rey, La Marche d'erreur, ça vient de sortir. Il est déjà dans ce studio. À tout de suite.
9h.
Bonjour Nicolas Rey.
Bonjour Philippe Vandel.
Plaisir de vous recevoir à ce micro. Vous êtes romancier, prix de Flore en 2000 pour Mémoire courte. Vous avez été chroniqueur télé et radio. Vous avez également écrit pour VSD, Le Figaro Magazine. Mais le plus important, ce sont vos livres qui racontent en partie votre vie. Votre plus gros succès, c'était Un léger passage à vide. Très joli titre. 150 000 exemplaires vendus. Vous racontiez vos problèmes avec la drogue, mais pas seulement. Des soucis de hanche, dans dos au mur. Vous en rajoutiez, vous révéliez être atteint en plus de pancréatite aiguë, un verre d'alcool et vous mourrez. Et là, votre actualité, c'est un nouveau roman. Ça s'appelle La Marche d'erreur. C'est chez votre éditeur historique, Le Diable Vauvert. C'est encore mieux. On apprend qu'il ne vous reste que 3 mois à vivre, en tout cas à votre héros, ce qui est manifestement faux, puisque entre le moment où on écrit un livre et le moment où il est publié, il se passe plus de 3 mois et vous êtes toujours vivant. Et en pleine forme, allez vous dire.
Oui, et en pleine forme.
C'est ça la marge d'erreur du titre ?
Oui, c'est ça. C'est parce que lorsque Gabriel Salin, le narrateur, demande à son médecin combien de temps il lui reste à vivre, le médecin lui répond 3 mois, avec une marge d'erreur de plus ou moins quelques semaines, en plus ou en moins. D'où le titre « La marge d'erreur ». Mais ces 3 derniers mois, il va en faire un feu d'artifice, parce qu'il va rencontrer Diane. Et Diane, c'est pas n'importe qui, c'est une femme hors du commun. C'est-à-dire que chacun de ses sourires est capable de réconforter la terre entière. C'est le panache qu'aurait pris forme humaine. Chacun de ses gestes est une suite ininterrompue d'actes réussis.
Elle existe pour de vrai ?
Oui, elle existe pour de vrai.
Vous aussi, vous existez pour de vrai. Votre héros, votre double, Gabriel, est dans un sale état. Il se gave de médicaments. Il est sous camisole chimique. Vous écrivez « Je ne ressens plus rien. Je n'ai mal nulle part. Mais je ne ressens aucun plaisir non plus, ni aucune joie. Mais pas de peine non plus. Je prends tellement de tranquillisants que je suis incapable de bander, par exemple. Pourquoi des détails aussi intimes ?
Oh bah parce qu'à un moment de mon existence, j'étais tellement shooté au médoc que j'étais une sorte de légume, quoi, comme je dis dans le roman de Boudin de Porte.
Ouais.
Et puis, au fur et à mesure, j'ai arrêté tout ça, j'ai pris que le service minimum et je suis redevenu un être humain comme les autres, heureusement.
Le médecin vous fait passer au sevrage, le sevrage à domicile où vient un enfer. Là aussi, c'est du vécu.
Oui, c'est un sevrage de cow-boy. Ouais.
C'est vraiment très très dur à lire. Très fort passage. Il cache à sa voisine Gabrielle qu'il est écrivain. Pour quelle raison ?
Sa voisine Diane.
Ouais, sa voisine Diane. Oui, mais
alors,
pas dit.
Alors Diane, elle est professeure des écoles. Ouais. Et moi, enfant, j'aurais adoré avoir une maîtresse comme ça, dans tous les sens du terme.
Ouais.
Il faut vraiment que je vous la présente un soir, Philippe Vandel.
Parce qu'elle existe pour de vrai.
Ouais, elle existe pour de vrai. Et il faut vraiment aussi que je vous présente mon père un soir, parce que c'est l'auditeur numéro 1 de votre émission.
C'est pas vrai.
Si, il est dingue de votre émission. Est-ce que vous aimez le vin ?
Bien sûr, qui n'aime pas le vin ? On n'a pas le droit de dire ce qu'il faut dire tout de suite, à consommer avec modération, parce que nous sommes...
Pas avec mon père, mais bon, si vous voulez. Mais... Et mon père a une cave hors du commun, donc on fait d'une pierre 2 coups. Je vous invite à dîner avec mon père et Diane.
Est-ce que, comme dans le livre, vous n'avez pas dit à la vraie Diane que vous étiez écrivain ? Pourquoi cacher qu'on est écrivain quand on est écrivain ?
Dans la vraie vie, je lui ai dit. Oui.
Alors, là, vous parlez...
Et elle avait lu mes livres, d'ailleurs.
Vous parlez parfois avec gravité, mais je vais lire un début de chapitre, parce qu'il faut dire qu'il y a des moments absolument flamboyants et des moments très drôles. On est page 104. On peut rire de tout. On peut rire de beaucoup de choses dans ce bas-monde, écrit Nicolas Rey. La noyade des migrants, les attentats, les infanticides, les viols de secrétaires par leur patron, les carambolages, si possible, les carambolages de bus avec des enfants à l'intérieur. Mais il existe un truc où personne n'a le droit de déconner, c'est le double de mes clés. C'est quoi ? Ça vous fait même rire vous-même. C'est quoi le problème avec votre double de clés ?
Parce que ma sœur a le double de mes clés. Et quand je déconne un peu trop, elle débarque chez moi pour me recadrer. Quoi.
Et elle vous remet dans le droit chemin.
Et dans ces cas-là, je prends très cher.
Le héros Gabriel a une sœur, ce ne sont pas les vrais prénoms, il y a beaucoup de pseudonymes dans le roman. Oui. Il y en a un dont vous donnez le vrai nom, que vous n'épargnez pas, c'est Nagui. Pourquoi lui ?
Alors, je vais vous dire toute la vérité. J'ai voulu faire chez Ruquier un bon mot.
Ouais.
Et en fait, je m'en veux terriblement parce que, au bout du compte, j'aime bien ce type et j'aime beaucoup son émission. N'oubliez pas les paroles.
Ouais.
Par exemple, je suis capable. Non, mais c'est du premier degré, Philippe Vandel. Je suis capable de vous dire que la première des maestros, c'est la reine Margot. Qu'en deuxième, c'est Kevin. Que l'un de mes chouchous, il est étudiant en médecine, il s'appelle Jérémy. Que j'adore Arsène parce qu'il a l'élégance d'une autre époque. Et Alessandra, elle fait des études d'expert comptable et quand elle est sur scène, elle ira dit la scène.
Mais
je suis fan et il l'a mal pris et c'est de ma faute.
Ouais.
Donc
mais
voilà.
Alors, je vais poser une question générale,
clos,
non pas sur lui. Je vais poser une question générale, non pas sur lui. Pourquoi vous l'égratignez ? Le sens de ma question générale. Mm. Vous êtes comme le scorpion qui peut pas s'empêcher. Vous connaissez la fable du scorpion qui peut pas s'empêcher de piquer parce qu'il a du venin.
Oui, c'est ça. C'était vraiment qui aime bien châtie bien quoi. Mais voilà, je regrette.
Comme beaucoup de romans, de vos romans, pardon, La marge d'erreur est construite en micro-chapitres de deux ou trois pages, rarement davantage. C'est un choix artistique.
Oui.
Ou c'est, auparavant, vous disiez que vous aviez parfois des problèmes de concentration.
Non, c'est un choix artistique. C'est, en fait, j'essaie de faire en sorte que le lecteur puisse oublier qu'il lit. Souvent, on me reproche. On me dit, oh là là, il écrit facilement, il se donne pas trop de peine. Et en fait, il faut beaucoup travailler pour faire croire qu'on écrit facilement.
Ouais.
Ça demande beaucoup de boulot de faire croire qu'on a écrit facilement sans trop de donner de peine. Vous voyez ce que je veux dire ?
Exactement. Sinon, on voit la sueur et c'est pas bon à lire.
Oui, sinon voilà. On se dit, oh là là, comme c'est bien écrit, cette phrase de six lignes, ouais, et voilà.
J'ai bien compris. Vous restez avec nous parce que votre papa va être encore plus heureux que ce qu'il était précédemment parce que c'est le portrait inattendu qui arrive de Nicolas Rey.
Ah, d'accord.
C'est Hélène Manarino. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Très heureux de retrouver dans Culture Média Nicolas Rey et aussi Hélène Manarino. Pendant la courte pause, Nicolas Rey dit à Hélène, alors c'est vous les fameux portraits. Hélène, faut en profiter, il en reste plus que 7 des portraits inattendus. Je vous le dis quand même, c'est à vous Hélène.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous, bonjour Nicolas Rey. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors cher Nico, on peut le dire, le foot a toujours fait partie de vous. Enfin le foot, Saint-Étienne, surtout avec votre collection de vignettes Panini enfant, les posters de l'équipe dans votre chambre et puis cette déception quand vos parents sont passés par Saint-Étienne en rentrant d'un voyage. Vous étiez dans la voiture, vous avez insisté pour que vous arrêtiez tous dans la ville afin d'apercevoir peut-être l'un de vos joueurs. Mais non, pas d'arrêt. Alors Nicolas Rey, ce matin, je vous propose de faire équipe avec les Verts et de jouer ensemble le plus grand match, le vôtre. Vous en êtes le capitaine. Et on commence par la préparation, l'enfance. La mascotte de l'équipe, c'est Poupa. Oui, votre doudou. Une sorte de poupée avec un corps en tissu style éponge bleue que vous emmeniez partout.
La tête de Nicolas Rey, je l'ai jamais vue comme ça.
Votre tenue fétiche, votre costume de Zorro, votre premier entraînement. C'était à Gasny, le village où vous viviez enfant. Vous faisiez partie des poussins. Vous aviez d'ailleurs perdu votre dent de lait sur le terrain pendant un match.
Tout ça est vrai, Nicolas.
Oui.
Nicolas Rey, pour faire un grand match, il faut un entraînement, un régime spécial, ça vous l'aviez compris. Alors vous aimiez vous nourrir de poums, c'est du pain trempé dans du coca. Concernant l'hymne de votre match, il va évoluer au fur et à mesure des années, mais on peut dire que le premier, c'était la chanson de votre tante Monique. Dans un petit jardin tout rond, il y avait une rivière qui coulait et guili, guili, guili. Une polyphonie.
Vous le faites bien, Hélène.
J'avais pas le faire avec la petite voix. Alors, vous aviez envie de devenir Platini ou acteur, ça dépendait des jours, mais vous étiez prêt. Vous travailliez votre mental, votre précision dans le geste avec votre grand-père paternel, Papou, qui vous avait emmené acheter un fusil à fléchette à deux canons à Mantes-la-Jolie. Et puis, le sens de l'espace que vous avez travaillé aussi grâce au spectacle entre cousins lors des repas de famille. Vous organisiez des concerts de rock devant la cheminée en utilisant des ustensiles de cuisine pour les instruments. Nicolas Rey, je crois que les bases sont posées. On peut commencer finalement la première mi-temps. Votre adolescence, il y en a eu des entraîneurs. Madame Schuver, votre professeur de latin en charge du club théâtre. Monsieur Vacher, votre prof de français au collège. Vous lui aviez fait une mauvaise blague sur une radio concurrente. Et oui. Et puis votre amour pour une prof de philo au lycée. Ils vous ont donné envie, tous envie.
Il fait oui à chaque info, il fait oui de la tête, Nicolas Rey.
de faire le meilleur jeu, c'est normal, vous étiez tellement charmeur, on vous pardonnait tout. Vous ne travailliez pas beaucoup, mais votre maman vous faisait faire des dictées dans la cuisine en vous tapant sur la main avec une cuillère en bois à chaque faute. Vous étiez surtout malin avec vos bulletins qui finissaient au fond du puits en Normandie. Vous avez grandi pour les cacher, eh oui. Un peu plus tard, il y a eu aussi l'école de commerce. Vous avez fait croire à vos parents que vous étiez en troisième année, mais en fait, vous redoubliez pour la troisième fois votre première année. Eh oui.
C'est vrai, Nicolas ?
Incroyable.
Alors évidemment, Nicolas Rey, dès le début du match, vous avez reçu quelques cartons rouges, dont un par Madame Ergotte, la prof d'allemand, lors d'un échange scolaire avec un collège en Allemagne, où vous avez bu du champagne en cachette, évidemment. Vous êtes resté parfois sur le banc de touche quand vous séchiez les cours pour passer les journées à Paris avec votre meilleure équipe, vos attaquants, vos défenseurs, vos meilleurs amis, Béné, Bérangère, Pierre. Vous virez à Cabourg, vous aimiez sortir, faire la fête quand vos parents étaient absents, surtout pendant les vacances, ils partaient 15 jours, donc tout le monde débarquait à la maison. Vous passiez des heures dans la salle de bain pour faire votre brushing. Et puis à l'âge de 20 ans, ces fausses fiançailles avec votre meilleur ami Béné qui avait été organisées sur le carton d'invitation était écrit « Le juge a dit « Vous avez 20 ans ». Quand on aime, on a toujours 20 ans. » Et oui, vous avez aimé Nicolas Rey, toujours, tout le temps. L'amour, vous avez fait vos meilleures passes finalement. L'amour de ce qui deviendra votre métier, de la lecture, de l'écriture. Vous recopiez des citations d'écrivains, de chanteurs sur les murs de votre chambre. Vous collectionniez les livres de la Pléiade. L'amour pour le chanteur Prince que vous imitiez avec votre brosse à cheveux.
J'aimerais bien voir ça.
L'amour pour ces valeurs familiales qui vous ont toujours guidé, évidemment. Et puis surtout, l'amour pour votre fils, évidemment votre meilleur allié, avec qui vous passez votre temps à regarder des films, pour qui vous êtes capable de dire que vous aimez le PSG alors que vous préférez l'OM. Alors Nicolas Rey, vous avez tout compris pour gagner, avancer, s'entourer de la même équipe depuis le début, garder les pieds sur le terrain, travailler, aimer les choses simples, rire, profiter avec un entraîneur fidèle, votre famille. C'est pour tout ça que vous êtes resté un numéro 10.
Merci beaucoup Hélène Manarino. Réaction Nicolas Rey.
Bah, merci Hélène, je garderai ça toute ma vie. Et c'est vrai, cette histoire d'amour avec ma prof de philo, ça a duré 2 ans. J'étais allé la voir à la fin d'un cours. Elle m'avait dit, elle essuyait le tableau. Elle m'avait dit, c'est pourquoi ? Je lui avais dit, c'est pour vous inviter à dîner. Elle m'avait répondu, vous êtes gentil, je supporte des élèves de votre âge déjà toute la journée. Alors le soir, j'évite de faire garderie. Donc je m'étais pris un énorme râteau, mais j'avais continué. Et voilà. Et il se trouve que c'est un peu de famille parce que ma mère était la prof de français de mon père, figurez-vous.
Juste un mot, elle avait quel âge ? Vous avez quel âge ?
Oh, j'avais 16 ans, elle en avait 30.
Et ça a duré 2 ans. Merci beaucoup Hélène Manarino.
Oui,
à demain.
Beaucoup.
Culture Média, continuons à parler de cinéma, à parler de littérature, toujours en compagnie de Nicolas Rey. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Nicolas Rey, La Marge d'erreur, c'est son 13e roman, si j'ai bien compté, peut-être le 10e au Diable Vauvert. C'est fou dans ce roman, Nicolas Rey, le temps que vous passez à mater des séries, des films, des DVD. Vous avez écrit ce roman en plein confinement ou est-ce que c'est votre passion éternelle ?
Ah, c'est ma passion éternelle. Vraiment, les DVD, les séries, les films.
Incroyable.
Ouais, vous êtes, je suis imbattable.
Soit tout seul, soit avec votre fils, soit avec la voisine, soit avec une maîtresse, soit avec tout le temps devant des DVD.
Oui, oui, mais non, la plupart du temps, je suis seul quand je regarde mes séries et mes DVD. Ouais. Ma série préférée, c'est évidemment The Wire, le personnage de Marley Little. Ouais. Elle me fait oui de la tête.
C'est Marjorie Adelson qui fait oui de la tête qu'on va entendre.
Ce truand, black, magnifique, homosexuel, avec une balafre sublime sur le visage, ce Robin des Bois, des gangs, il est phénoménal comme acteur.
Puisque vous en parlez, Marjorie, je me tourne vers vous, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous nous parlez d'un film français qui vient de sortir en DVD VOD, ça s'appelle « Sous les étoiles de Paris ».
Oui, c'est un titre presque romantique pour parler d'une triste réalité, celle des sans-abri. Catherine Fraud joue Christine, une SDF, elle vit à Paris sous les ponts depuis des années. Récemment, elle a trouvé un abri au sec, ici on la laisse tranquille, elle a même réussi à se reconstituer une petite chambre. Mais un jour, quelqu'un vient squatter son repère, c'est Sully, un petit garçon de 8 ans. C'est un migrant et il cherche sa maman, mais Christine n'a aucune envie de jouer les babysitters.
Qu'est-ce que tu fais là ?
Voilà ! Chut, 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 chut.
Tu vas récupérer tes affaires et tu repars tout de suite.
Bon, évidemment, vous me voyez venir. Christine va finir par prendre le petit garçon sous son aile et ensemble, ils vont partir à la recherche de sa mère. Alors c'est un conte social assez fascinant dans sa forme notamment. Le réalisateur Klaus Drexel vient du documentaire et franchement ça se sent. C'est à la fois très réaliste, on y découvre la nuit parisienne, pas celle qu'on connaît ou qu'on imagine, mais celle des catacombes, des migrants, des prostituées, le tout filmé avec beaucoup d'humanité. Et en même temps, eh ben, c'est très inventif. Malgré le sujet, Paris est filmé comme une ville presque fantastique, pleine de mystères. Ça donne un joli road trip dans le Paris des oubliés. On y croise des personnages abîmés, mais très solidaires. Exemple avec cette prostituée du Bois de Boulogne.
Vous vous aidez ?
Nous cherchons le centre de rétention administrable.
Vous voulez dire le centre de rétention administrative ? Vous avez de la famille là-bas ?
Surtout lui. On cherche sa mère.
À cet âge, si c'est pas malheureux... C'est juste là derrière. L'entrée, c'est complètement de l'autre côté. Vous l'avez adoptée ?
Oui, un peu. Au revoir, madame.
Au revoir. Au revoir, petit.
Au revoir, petit.
Alors, c'est pas un film où ça parle beaucoup. Je dois vous dire que c'était assez galère de trouver des extraits parce que tout, vraiment tout se passe dans les regards, les silences et dans la complicité qui unit Catherine Fro et le jeune acteur dans leur quête. Il n'y a pas de phrase en trop, pas de mièvrerie. C'est un film émouvant et juste sous les étoiles de Paris.
Le deuxième film que vous avez choisi pour nous, Marjorie, s'appelle Haute Couture. Il est disponible sur Arte et c'est avec Kate Winslet.
Oui, dans un rôle excentrique à souhait. Alors, on est dans les années 50. Elle incarne Tilly, une styliste très connue. Ses créations cartonnent à l'étranger. Elle voyage dans le monde entier. Pourtant, Tilly décide de revenir dans sa petite bourgade au fin fond de l'Australie. Elle débarque donc avec ses escarpins, ses immenses chapeaux et ses robes à frou-frou au milieu des champs. Évidemment, elle détonne parmi les habitants, tous très austères. Mais Tilly s'en fiche, elle est revenue pour éclaircir son passé. Elle l'explique ici à sa mère.
Je sais pas ce qu'une fille comme toi fait dans ce trou.
Il y a rien ici.
Je suis là parce que... J'ai besoin que tu m'aides à me souvenir, maman. Je veux que tu te souviennes et que tu m'aides à me souvenir.
Me souvenir de quoi ?
Est-ce que j'ai commis un meurtre ?
Bon, alors c'est une question un peu bizarre qu'elle pose, hein, mais c'est justement tout l'intérêt du film, parce que c'est en fait une enquête passionnante. On comprend très vite qu'enfant, Tilly a été accusée du meurtre d'un camarade, puis chassée du village. Sous le choc, elle a tout oublié. Elle va donc essayer de remonter comme ça le fil de sa mémoire et comprendre ce qui s'est réellement passé. A-t-elle vraiment tué son camarade ? On est dans une sorte de Cluedo version western. Ce qui est génial, c'est que tous les habitants sont tous plus louches les uns que les autres. Tous semblent avoir quelque chose à se reprocher.
Mais c'est aussi une comédie sur l'émancipation féminine.
Et oui, car avec toutes ses créations chic et colorées, Tilly va relooker toutes les villageoises, les dévergonder même. L'objectif, prendre conscience de leur pouvoir de séduction.
Gertrude Pratt m'a dit que c'était toi qui avais confectionné la robe qu'elle portait à la danse.
Tout à fait.
Ben moi, j'aimerais te commander une tenue de jour. Si possible, bien sûr.
Ça l'est.
Oh. Mais faudra que tu payes. Content.
Et moi, j'aimerais toute une gamme de tenues de nuit et de lingerie. Question de mettre un peu de piquant dans mon vieux mariage.
Voilà, donc très vite, le petit village va se transformer en Fashion Week. C'est un film à la fois sombre et plein de fantaisie, magnifiquement interprété par Kate Winslet, Haute Couture sur Arte TV.
Et qu'on peut évidemment voir, j'imagine, en VO.
Oui,
aussi,
qu'on peut voir en VO, il vaut mieux.
Et réaction, Nicolas Rey ?
Oui, moi j'ai un film vraiment en DVD à conseiller, de 1989, Un monde sans pitié, d'Éric Ronchamp, avec Hippolyte Girardot et Mireille Perrier. C'est une histoire d'amour entre les deux. Et le film commence, c'est l'aube, c'est le boulevard Saint-Michel, et en voix off, il y a Hippolyte Girardot qui dit « Qu'est-ce qu'on a par l'amour ? Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé ? Des lendemains qui chantent ? Le grand marché européen ? On n'a que dalle. On n'a plus qu'à être amoureux comme des cons, et ça c'est pire que tout. »
Magnifique, magnifique film, Un monde sans pitié, ouais. D'Éric Rochant, son premier film si je me souviens bien.
Oui, c'est ça.
Merci Marjorie Delson. Dans un instant, on reste avec des Nicolas Caro, Nicolas Rey, on va parler de littérature. Mais d'abord, Moby, c'est un duo avec Gregory Porter.
Don't know.
Natural Blues, nouvelle version de cet indispensable de Moby en featuring avec Grégory Porter sur Europe 1. Dans un instant, notre deuxième indispensable, justement avec Nicolas Carreau, qui va nous faire découvrir une fresque familiale à travers un nouveau roman.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
La marge d'erreur, c'est le nouveau roman de Nicolas Rey au Diable Vauvert, édition son éditeur traditionnel. Ce livre, Nicolas Rey, raconte également votre vie de journaliste, notamment quand vous faites des interviews. Il y a un passage absolument savoureux. Lorsque vous interviewez une jeune youtubeuse qui vient d'écrire un livre qui cartonne, vous n'avez même pas lu son livre, vous le feuilletez dans le taxi. Comment les gens le prennent quand vous alliez faire des interviews sans avoir lu les bouquins?
Mais ça m'est arrivé.
Ben, je le sais, c'est pour ça que je vous pose la question.
Ça m'est arrivé par exemple avec une fille extra qui s'appelle Léa Drucker.
Ouais.
C'était au parc Hayat.
Ouais.
Je me suis pointé et je lui dis la vérité. Je lui dis voilà, je suis là, c'était pour l'Optimum. Et je lui dis je suis là, Léa Drucker, mais je ne sais même pas pourquoi je suis là. Je ne sais pas si vous avez écrit un livre, si vous êtes dans un film, si vous avez fait un disque, une pièce de théâtre. Et elle était d'une gentillesse, ouais, et d'une humanité. Elle voyait que je n'étais pas en grande forme. Elle voyait que j'étais dans un état second, voire tertiaire. Et j'avais un petit carnet noir, elle l'a pris, elle me dit « Mais je vais tout vous expliquer, c'est pas grave. » En fait, je fais une pièce de théâtre, ça s'appelait 84 Crossing Guard, je crois, au Théâtre de l'Atelier. Et elle m'a expliqué la pièce,
ouais,
et j'ai pu faire mon papier.
Et vous avez raconté tout ça?
Et j'ai raconté tout ça, du coup.
Parce que vous mettez en scène votre propre vie, mais là,
et
comment...
Ben, ce que j'ai raconté aussi, oui, mais c'est que le lendemain soir, je suis allé voir la pièce, et j'ai trouvé la pièce géniale. Et j'ai terminé mon papier ainsi.
Mais je voudrais savoir comment ça s'est passé avec la youtubeuse que vous interviewez sans avoir lu son livre.
Ah bah là, ça s'est passé, c'était le vide intersidéral. Mais en même temps que je l'interviewais, je découvrais son livre qui était vraiment... affligeant, si vous voulez.
On l'a tous reconnu, je ne vais pas trahir son nom, parce que comme on l'a reconnu, non, c'est le livre de l'youtubeuse qui s'est vendu à 250 000 exemplaires, voilà. Il n'y en a qu'un. Bonjour Nicolas Carreau.
Bonjour.
Vous avez lu le livre?
Ah oui.
Nicolas Carreau, il est comme moi, il lit tous les
Sinon,
livres.
Je suis mortifié face à mon invité.
Pareil, mort de honte si c'était mon cas. Vous nous parlez du nouveau roman d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre, c'est chez Grasset, ça s'appelle Les Jours Heureux.
Le dernier est très attendu, c'est son troisième roman, son précédent date de 2016 et il était Grand Prix du roman de l'Académie française. Et la revoilà, elle a pris le temps avec Les Jours Heureux. C'est l'histoire d'Oscar, un fils de deux légendes du cinéma, genre Richard Burton et Liz Taylor, mais en France, un couple un peu fantasque. Un soir, par exemple, en rentrant de l'école, l'un dit à l'autre qu'il partirait bien en Italie. Et hop, ils prennent la voiture, direction Portofino, et Oscar sèche l'école pendant quelques jours, c'est pas grave. Ils sont très amoureux, mais ils se séparent sans arrêt. Trois divorces, deux réconciliations. Adélaïde de Clermont-Tonnerre.
Trois fois exactement. Donc le pauvre Oscar, il y a les avantages effectivement des parents célèbres, mais il y a les désavantages des parents célèbres, à savoir une image un peu écrasante et puis des parents qui, au lieu de le coller devant des dessins animés, vont le mettre devant des films d'art et d'essai alors qu'il n'a que 4 ans. Lui n'y comprend rien, mais bon, au moins ça évite qu'il soit témoin des disputes. Et c'est vrai qu'il essaye de se créer son espace à lui, d'écrire sa propre histoire, mais que souvent, ses parents qu'il adore parce qu'ils sont très fusionnels tous les trois, ont tendance à venir perturber son quotidien.
D'accord, mais en même temps, fils de star, ça peut avoir des avantages.
Mais oui, par exemple, enfant, Oscar a côtoyé Delon, Belmondo, etc. Et c'est très très naturel pour lui. Mais c'est vrai que ça pèse lourd, il voulait être écrivain. Résultat, quand il a sorti son premier recueil de nouvelles, bide total, les critiques n'ont retenu que son nom de famille et sa généalogie. Il décide donc de devenir scénariste de série, avec un pseudo surtout, et ça marche. Mais au tout début du roman, il apprend que sa mère est gravement malade, il est un peu désemparé, et puis il décide qu'en tant que scénariste, il a le pouvoir de changer les choses, d'écrire le scénario de la réalité. Et son objectif maintenant pour lui, c'est de réconcilier ses parents avant la fin, comme un écrivain qui se prendrait pour Dieu, finalement.
L'écrivain démiurge et l'écrivain réparateur, il y a des très belles citations d'ailleurs sur le fait qu'on écrit pour ceux qui nous ont quittés, pour garder le lien avec ceux qui nous ont quittés, qu'on écrit aussi parce qu'on a forcément, en tout cas quand on fait de la fiction, une forme de difficulté avec le réel, avec ses contraintes, avec ses injustices, avec ses insuffisances, et que tout d'un coup dans la fiction se déploie et une liberté et un plaisir qu'on ne trouve quasiment nulle part ailleurs. Bien sûr, on aimerait réécrire des histoires d'amour qu'on a un peu ratées, qu'on aimerait réécrire des relations qui ont été insuffisantes, et puis des retournements, parce que la fiction, c'est la vie en plus intense, en plus fou, et quelquefois en plus vrai.
Et alors, il va réussir à changer la réalité ?
Ah bah, il fait tout pour, mais c'est pas facile. Son père est avec une jeunette franco-russe, Natalia. Il y a quelques obstacles comme ça à franchir. Parallèlement, il rencontre Aurélie, qui écrit un film sur un prédateur du cinéma américain, un certain W. Bref, c'est un roman qui ne s'arrête jamais. Un rebondissement par page, on voyage, un page-turner hyper romanesque. Il y a un drame au cœur du roman dont je ne peux pas vous parler, puisqu'Adélaïde de Clermont-Tonnerre me l'a interdit formellement. Okay. Adélaïde de Clermont-Tonnerre, qui n'est pas qu'écrivain, elle est aussi directrice de Point de Vue, le journal. Le résultat, elle cherche tout le temps des brèches pour essayer d'écrire, à s'élever à 3h du matin tous les jours pour celui-là. On attend le prochain dans 5 ans, ouais. On espère.
Elle se lève à l'heure à laquelle Nicolas Rey se couchait. Ça s'appelle Les Jours Heureux chez Grasset, son nouveau roman. Vous avez un roman à recommander à part le vôtre ou pas du tout? Est-ce que vous êtes œcuménique comme ça?
J'ai un roman à recommander, oui, c'est en poche. Ça s'appelle Camille d'Anthony Palou. C'est une histoire d'amour, voilà. Et c'est Camille, c'est une fille assez particulière. Et tous les hommes qui couchent avec Camille deviennent fous.
D'accord. Il y en a beaucoup ?
Il y en a quelques-uns. Il y en a un qui va mordre la poussière.
Les Jours Heureux chez Grasset, le nouveau roman d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Merci beaucoup, Nicolas Caro. Suite et fin de l'émission avec le romancier Nicolas Rey. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
La marge d'erreur, c'est le nouveau roman de Nicolas Rey, prix de Flore 2000, dans Dos au mur, un précédent roman qui datait de 2016. Vous révéliez être atteint, enfin votre héros, mais on sent très bien que c'est vous Nicolas Rey, de pancréatite aiguë, c'est-à-dire un verre d'alcool et on meurt. La preuve que non, puisque dans la marge d'erreur, vous enfilez parfois 3 vodkas de suite. Alors, j'arrive pas à savoir si c'est vous ou si c'est pas vous, parce que vous avez dit que vous étiez abstinent depuis la naissance de votre fils, vous ne buvez plus une goutte d'alcool.
Ça, c'est de la fiction, oui, ouais. je suis abstinent, oui. Et d'ailleurs, c'est...
Oui. Et c'est comment ?
Ah bah, c'est, ça va, mais c'est très très difficile quand on passe un dîner avec l'apéritif qui commence pour que les autres se mettent en forme autour d'un petit cépage, ouais. Et puis le dîner qui continue et au fur et à mesure tu vois les gens bourrés qui te font des tunnels d'un quart d'heure, qui te posent une question, tu leur réponds et tu vois qu'ils n'écoutent pas ta réponse parce qu'ils sont en roue libre et voilà quoi, donc ça c'est un peu épuisant et puis tu te barres le premier parce que t'en peux plus et là on te traite de pisse froid.
Ouais.
Voilà.
Et l'écriture, je vous dire à quoi je pense. J'ai retrouvé une interview ancienne de vous, c'était en avril 2018 dans l'Obs. Vous disiez, vous n'imaginez pas à quel point c'est chiant et laborieux d'écrire lorsqu'on est totalement clean.
Oui, c'est plus difficile. Oui. Alors, en fait, je fais d'abord une première version de mon roman. Mmh. Donc celle-ci, elle est difficile à faire. Après, une fois que j'ai le squelette, lorsque je retravaille ce premier brouillon, là, je prends du plaisir. Voilà.
Mais avant, vous n'en prenez pas. Est-ce que le souvenir de l'alcool et de l'ivresse vous fait souffrir, un petit peu comme les gens qui ont été amputés d'un bras, dont on dit qu'ils ont encore parfois mal à la main qu'ils n'ont plus ?
Ça me fait souffrir une seconde, un millième de seconde. C'est des moments, par exemple, à la réouverture des terrasses. Ouais. J'ai pensé une seconde, tiens, je me prendrais bien une lèvre à la pression, vous voyez ? Ça ne dure pas longtemps. La dernière fois, j'ai revu un vieux Claude Chabrol, inspecteur Lavardin, et il y avait Jean-Claude Brialy qui faisait un repas comme ça, et on les voyait se servir un vieux Pomerol. Ouais. Et je me suis dit, ah bah, je serais bien à ce dîner en train de boire un verre de Pomerol avec eux, mais ça dure 2 secondes, et ouais. C'est passé, voilà.
En même temps, vous avez un personnage, comment dire, le personnage flamboyant Nicolas Rey, qui était le prince de la nuit, qui sortait, qui prenait toutes sortes de produits, c'était votre personnage. Ouais. Vous en avez souffert, mais ça a construit votre légende, votre stature aussi.
Oui, mais c'est pas ma personne à l'heure actuelle. Ouais. Ma personne, à l'heure actuelle, elle fait des soirées tous les mercredis soirs ciné-club avec son fils, parce que Gabriel Salin, il lui reste 3 mois à vivre, mais dans les 3 mois qu'il lui reste à vivre, il y a l'idée de transmission aussi, quoi, de film. Il lui montre toutes les semaines un film. Il y a Amadeus qui lui montre le bal des perruques, la symphonie du rire en guise de réponse à tout. Puis il y a cette scène inaugurale avec Salieri, le vieux Salieri, l'ennemi juré de Mozart. Et le jeune moine qui lui rend visite. Et Salieri qui essaie de lui faire découvrir ses opéras. Le moine qui n'en connaît aucun. Et alors là, Salieri qui fait, et ça vous connaissez ? Tin, tin, tin. Et là, le jeune moine dit, oh, mais ça je connais, c'est merveilleux. Oh, ça c'est de vous. Et là, Salieri qui dit non, c'est de Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart.
Nicolas Ray qui raconte des films. J'ai retrouvé une interview de vous de 2009. C'était au magazine Elle que vous disiez ceci. Vous disiez « Nous sommes tous sans intérêt. Ce que j'écris ne vaut rien. Revenez me voir quand j'aurai écrit 6 ou 7 livres. » Maintenant, vous en êtes au 13e. Est-ce que vous trouvez toujours que ce que vous faites est sans intérêt ?
Écoutez, pas sur ce coup-là. Je ne veux pas paraître prétentieux du tout, mais... C'est pas seulement que j'ai mis mes tripes sur ce livre, mais j'évoque la laïcité, le féminisme, les migrants, Gisèle Halimi. J'ai retrouvé, pour le bien de ce livre, une interview, l'une des toutes premières interviews magnifiques de Gisèle Halimi. Elle défend l'avortement et il y a la présentatrice est très conservatrice et l'attaque en lui disant « vous avez trop de casquettes » et Gisèle Halimi lui répond « vous me réduisez, je suis à la fois femme, avocate, militante, mère de famille, je ne suis pas un tiroir », elle lui dit. C'est magnifique comme phrase, je ne suis pas un tiroir.
On reste sur cette formule, La marge d'erreur, c'est le dernier roman de Nicolas Ray. Merci d'avoir été avec nous, c'est aux éditions du Diable au Vauvert. Nous, on revient demain à 9h pour Culture Média, votre papa sera content. On va parler du dispositif inédit de France Télé pour le Tour de France. Nous serons avec le patron du Tour, Christian Prudhomme, et le directeur des sports du groupe France Télévisions, Laurent-Éric Lelay. Et puis la comédienne et réalisatrice Julie Delpy. On va parler de son nouveau film, My Zoé, son nouveau film donc qui sort juste après le flash chez Andrew Manoff. L'émission s'appelle Ça fait du bien. Je vous dis à demain. Je vous dis salut Nicolas Ray.
Au revoir Philippe Vandel.
Culture Média, Philippe Vandel.
Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor. Vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.